Bienvenue dans le podcast Marketing Mania, l'émission qui combine la psychologie humaine, l'analyse statistique et l'art ancestral de la persuasion. Tout ça dans un but unique, découvrir comment convertir plus de vos visiteurs en acheteurs. Bonjour et bienvenue dans le podcast Marketing Mania. Je suis Stanislas Leloup, alias le maniaque des conversions. Et dans cet épisode, j'accueille Olivier Lambert. À seulement 22 ans, Olivier était à la tête d'un budget publicitaire de plus d'un million de dollars. Aujourd'hui, il est le créateur du blog marketing numéro 1 au Québec. Alors oui, il faut vous attendre dans cette interview à entendre un accent un petit peu exotique, mais vous allez voir, ça en vaut le coup. Voilà ce que vous allez apprendre dans cette interview. Vous allez découvrir l'histoire de la première entreprise d'Olivier à l'âge de 10 ans et comment un changement dans ce qu'on pourrait appeler l'environnement légal y a mis brutalement fin. Vous allez apprendre l'histoire de son premier business sur eBay à 16 ans et comment ce business-là a été coulé par une arnaque russe. On parlera de comment son blog a permis à Olivier d'arriver à la tête de ce fameux budget publicitaire de plus d'un million de dollars quand il avait seulement 22 ans. On discutera de pourquoi vous devez absolument faire des sondages sur votre liste et on discutera de comment bien les faire. On parlera aussi de publicité Facebook et de pourquoi il est toujours possible d'obtenir des clics à 2 centimes. Oui, vous avez bien entendu, il est encore en 2015 possible d'obtenir des clics à 2 centimes via Facebook et on parlera avec Olivier de pourquoi et de comment atteindre ces résultats pour vous-même. Et on parlera en particulier d'une étude de cas où Olivier a pu générer 35 000 visites sur un site avec seulement 33 euros de budget en pub Facebook. Alors, sans plus de transition, je vous présente Olivier Lambert. Salut Olivier, bienvenue sur le podcast.
Bonjour Stan, merci beaucoup de m'avoir accepté sur ton podcast, ça fait plaisir d'être là.
Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques phrases qui tu es et ce que tu fais?
Eh bien, la première chose que ton auditeur va se dire, c'est « Bon, ben, est-ce qu'il va te parler comme ça tout le long de l'entrevue? » Et la réponse est oui, à cause que je viens du Québec.
Est-ce qu'il va dire « entrevue
» du podcast? À cause que, bon, ouais. Première chose que les gens ils voient lorsqu'ils me parlent, c'est que je suis Québécois. Donc, l'accent est parfois une barrière au niveau d'un auditoire un petit peu plus européenne. À cause que moi, mon entreprise est au Québec. J'ai un blog qui s'appelle olivierlambert.ca, qui prend mon nom, qui a été voté le blog numéro 1 en marketing l'an passé au Canada. Donc, c'est pas si mal. Et puis, donc moi, j'ai une entreprise où ce que je vends de la formation au niveau du marketing sur Internet. Donc, ma première formation que je viens de lancer, c'est comment être capable de faire la publicité sur Facebook. Et je suis en train de travailler sur une nouvelle formation en ce moment que je vais lancer dans le premier trimestre de 2016 qui va porter sur l'email marketing. Ensuite de ça, bon, je vais en avoir d'autres qui vont s'aligner. Alors moi, c'est vraiment de faire un portail de cours en ligne pour aider les gens à apprendre comment techniquement faire des campagnes de marketing web. Je ne sais pas si à ton université, ils ont bien parlé du marketing et que tu as été prêt quand tu es sorti de là.
Ouais, c'était excellent. J'ai eu un excellent cours sur la publicité Facebook. C'était impressionnant. Dans mon université, là où j'ai été en cours, disons que pour eux, le marketing, c'était aller placer des flacons L'Oréal dans les supermarchés. Tu vois, c'était du marketing produit de grandes marques. Voilà, donc effectivement, il y a un besoin de formation.
Donc, c'est un petit peu ce besoin-là que je veux venir combler. Et puis au Québec, même principe, là, les cours sont peut-être 15-20 ans en arrière sur la réalité quand tu arrives sur le marché du travail. Fait que c'est vraiment ça que j'ai voulu attaquer. Pourquoi Facebook? Pourquoi le marketing par courriel? C'est simple. Avant de travailler, de lancer cette formation-là, j'étais à temps plein sur un site qui s'appelle Voyage à Rabais. Voyage à Rabais, c'est le plus gros site de voyage au Québec. On bat Expedia dans les ventes. Pour vous donner une idée, c'est le plus populaire. 1,6 million de visites par mois, 100 millions de chiffres d'affaires par année. Alors, c'est ça. Quand j'étais là, j'ai pu dépenser grosso modo à peu près 1 million en publicité web. J'ai envoyé à peu près 20 millions de courriels.
Et tu avais quel poste là-bas?
Responsable marketing digital.
D'accord.
Fait que là, c'est ça. J'ai touché à tout ce qui était publicité Facebook, optimisation sur le site, stratégie courriel, AdWords, référencement. Tout ça, c'était moi qui s'en occupais avec le vice-président qui est un très, très bon mentor là-bas. Et puis, c'est pour ça que, bon, vu que j'ai fait beaucoup de pubs Facebook, j'ai fait beaucoup de marketing par courriel, mais c'est les deux choses que je sens que je suis confiant que j'ai assez expérimenté. À cause que, bon, une autre chose qu'il faut savoir avec moi, non seulement je suis Québécois, mais j'ai 24 ans, donc je suis relativement jeune pour donner des conférences puis montrer aux gens comment faire. Donc, il fallait que j'aie un bon background pour me justifier un peu ces compétences-là. C'est pour ça que je commence avec ces sujets-là.
Comment est-ce que tu es... T'avais quel âge quand quand tu es devenu responsable marketing chez Voyage Arabé?
J'avais 22.
Comment est-ce qu'à 22 ans, tu te retrouves à gérer des budgets de pub de 1 million de dollars?
Ça, c'est une bonne question. En fait, moi, ça fait longtemps que je suis dans le web, là. J'ai commencé ma première entreprise, j'avais 16 ans, je vendais sur eBay. J'étais technicien en informatique dans une shop parce que je réparais des trucs. Là, j'étais voir mon patron, j'ai dit si jamais tu veux grossir, à cause que la business allait mal, tout allait mal, j'ai dit si jamais tu veux grossir, il va falloir que tu commences à vendre sur Internet. Puis là, il m'a dit ah, j'ai pas le temps de faire ça, on n'a pas l'argent pour investir sur un site web. J'ai dit t'as pas à t'inquiéter pour un site web, c'est facile, tu t'en vas sur eBay, tu mets tes trucs, tes produits, les gens ils vont acheter. Fait que là, il a dit ça me tente pas de m'investir là-dedans, sauf que si tu veux le faire, vas-y, je vais te donner accès à mon inventaire. Puis garde-toi ce que tu veux sur tes ventes. Donc, je disais, all right. Là, j'ai commencé à vendre sur eBay à 16 ans. Et puis, ça allait bien. Sauf qu'un moment donné, je me suis fait avoir par un Russe pour une somme de, je pense, 5 000 $. Quand tu as 16 ans.
Alors, comment est-ce que tu t'es fait avoir par le Russe sur tes 5 000 $?
Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'avec PayPal, tu ne peux pas envoyer à une autre adresse que l'adresse vérifiée de PayPal. Tu ne peux pas faire ça. Alors là, c'est ça. Moi, c'est un dude qui m'avait acheté un laptop. Coûtait vraiment cher. Puis là, il m'a dit, peux-tu l'envoyer à ma femme à cette adresse-là à la place? Et j'ai dit, pas de problème, ça va coûter plus cher de shipping. Là, j'ai checké le paiement, tout était correct, tout avait l'air beau. Fait que j'ai dit, OK, pas de problème, j'ai les courriels comme preuve, comme quoi que c'est lui qui me l'a bien demandé de son courriel personnel puis de son courriel de eBay. Sauf que, bon, malheureusement, c'était pas le courriel enregistré de PayPal. Donc, ce que lui a fait, c'est que bon, il a reçu le laptop et ensuite de ça, il a été dire à PayPal j'ai payé pour un item que j'ai jamais reçu.
Ouais, ok.
À cause que je l'ai pas envoyé à la bonne adresse. Même si j'avais la preuve du gars qui me demandait de l'envoyer à l'autre adresse. Avec le tracking number.
Et PayPal iront toujours du côté du client.
Toujours du côté du client.
Ok. Donc, tu t'es fait avoir sur ton business d'eBay à 16 ans par un Russe. C'est un début difficile.
Exactement. Fait après ce début difficile-là, ça m'a pris un an à peu près avant de me repartir dans un autre business où là, je faisais des sites web pour des clients, je faisais du design, je faisais des ce genre de choses-là pendant toute mon université, en fait. Et en sortant de l'université, je me suis fait approcher par une agence de communication pour travailler pour eux et je me suis fait repêcher de l'agence pour travailler chez Voyage Arabé à cause que, bon, il avait lu mon blog, il avait lu mes études de cas, il avait lu qu'est-ce que j'avais fait. Fait que c'est vraiment le blog qui m'a permis d'avoir mon emploi aussitôt.
Ah, c'est étonnant ça. Donc c'est le fait d'avoir créé ton contenu perso sur ton blog perso qui t'a fait monter comme ça à un âge étonnant.
Ouais.
Et du coup, t'es resté combien de temps là-bas?
Ça a duré 1 an et 6 mois chez Voyage Arabé. Et puis moi, c'est vraiment le... Je suis un entrepreneur dans l'âme. Travailler pour quelqu'un d'autre, ça me dérange pas, sauf que tout le temps que tu passes à travailler pour la business de quelqu'un d'autre, t'es pas en train de travailler, de faire grossir la tienne. Puis moi, je voyais le potentiel de mon audience qui commençait à grossir assez de plus en plus rapidement. Et puis là, je me disais, si je sors pas un produit, à chaque jour qui passe, c'est un coup d'opportunité que je pourrais être en train de vendre quelque chose à ces gens-là. Et de vraiment les servir comme que eux veulent que je les serve. Parce que quand il y a des gens qui viennent sur ton blog, qui s'inscrivent à ton infolettre, ils sont comme, c'est cool, qu'est-ce que cette personne-là fait? J'aimerais ça qu'il en fasse plus. Sauf que quand tu réponds pas à cette attente-là, eh bien, il y a comme une espèce de besoin que tu viens pas combler. Quoi. Tu sers pas ton audience de la façon que tu pourrais la servir.
Est-ce que tu peux nous donner une idée des chiffres que tu fais sur ton blog en termes de volume, en termes de liste?
OK, quand j'ai commencé mon blog, j'avais 0 abonné. Et puis, j'ai commencé à travailler pour bon, l'agence de communication, comme que je vous avais parlé. Et puis là, j'ai regardé leur liste. Là, je suis comme, oh my God, ils ont 1000 sur leur liste. Je suis comme, ah, that's gros. Fait que là, je suis comme, all right, je vais mettre des pop-up, je vais mettre des trucs sur mon site. Je vais essayer d'avoir plus d'abonnés. Fait que là, bon, en dedans d'un an, j'ai regardé grossir de 0 à 1000. Fait que là, je suis comme, all right, tu sais, j'ai 1000, c'est pas si pire. Puis là, j'ai été travailler chez Voyage Arabais, où ils ont genre 500 000 et plus. Fait que là, j'étais un petit peu mal de dire, bon, ben moi, j'ai 1000. Tu sais, quand je parlais avec mon patron, il me demandait, t'as combien sur ta liste? Je suis comme, j'ai 1000. Donc, c'est ça. Après ça, la première année, 0 à 1000. Ensuite de ça, deuxième année, 1000 à 10 000 présentement que j'ai sur mon blog. Et puis bon, si on suit la suite logique des choses, l'année prochaine, je serais censé avoir 100 000. Espérons ça.
Et c'est bien possible. Hein. Moi, c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué sur ce genre de choses, c'est que tu as un effet exponentiel.
Ouais, c'est
tes 100 premiers abonnés sont vachement plus durs. Je me souviens encore, moi. Je me souviens, j'ai la même histoire que toi. Quand j'ai commencé en 2013, j'avais cet objectif fou. C'était un objectif, c'est que je voulais toucher la Lune. Je voulais avoir mes 1000 premiers abonnés. Et un an plus tard, on avait dépassé les 10 000. Enfin, c'était, tu vois, les 1000 premiers étaient une telle lutte. Il fallait compter chaque abonné. T'en avais 10 de plus, 20 de plus. Tu avançais. Et t'as un effet exponentiel comme ça. T'as un effet boule de neige qu'on a tous constaté, je pense, là-dessus.
Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que faut tout le temps qu'on compare les deux marchés. Parce que moi, je suis au Québec. Au Québec, 8 millions de personnes. En France, 66 millions de personnes. Et puis, pour moi, c'est difficile d'approcher un marché francophone de l'Europe à cause, justement... Tu sais, moi, des fois, je reçois des courriels de monde qui me disent « C'est vulgaire, la façon que tu parles, je comprends rien. » Tu sais, fuck you. Est-ce que je peux prendre ce mot-là sur ton podcast?
Ah, tu peux dire ce que tu veux sur mon podcast.
All right, good. Fait que je me suis fait dire « fuck you » par courriel par des Français plusieurs fois. Il y en a d'autres qui trouvent ça cute. Il y en a d'autres qui trouvent ça incompréhensible. Donc, pour moi, il y a un petit défi là, au niveau de la croissance en Europe. Là.
Et du coup, sur ton trafic, tu peux le mesurer, c'est que des Québécois ou tu as quand même un pourcentage de Français?
Non, c'est 50-50. 50% Québécois, 50% des Français en Europe. Ça ressemble à 50 000 visites par mois. Mais encore là, c'est une croissance qui a été un peu exponentielle. Ça a commencé, quand j'ai commencé, c'est quoi? C'est 10 000 par mois la première année. Ensuite de ça, 30 000. Puis je suis rendu à 50 000. Et ça continue de grossir. Là, c'est pas une métrique que je track avec beaucoup de précision, parce que bon, le trafic c'est une chose. Moi, ce qui m'importe, c'est plus le revenu qui est important. Là.
Ok. Est-ce que tu penses que l'inverse est vrai? C'est-à-dire que moi, les Québécois vont avoir un préjugé sur le fait que j'ai un accent qui est pas familier?
Et ça marche dans les deux sens. C'est une lame à double tranchant. Comme que je disais, moi, c'est plus difficile en Europe. Aller, mettons, vendre mes formations, donner des webinaires, ce genre de choses-là. À l'inverse, c'est plus difficile pour un Français de venir vendre son stock au Québec. On va quand même l'acheter, à cause qu'on comprend très bien qu'est-ce que vous dites, à l'inverse que vous qui ne comprenez pas qu'est-ce que je dis. Mais non, il y a définitivement, là, moi, ça m'est arrivé plein de fois du monde qui me disent « Bon, ben, c'est toi que j'ai pris comme consultant à cause que bon, t'es Québécois. » On a une mentalité qui est très, très... protectionniste au Québec, ce que je trouve qui est triste un peu à cause que, bon, il faut qu'on s'ouvre sur le monde, il faut qu'on s'ouvre sur les différentes cultures à cause que la connaissance, faut qu'elle se mélange d'une certaine façon. Puis si on reste juste entre voisins, ben, on n'apportera rien de nouveau. Là.
OK. Je voudrais revenir juste un peu en arrière avec toi parce que j'ai lu une anecdote assez drôle. J'ai lu sur ton site que ton premier business, tu l'avais commencé dans la cour de récré. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu?
Oui, donc c'est ça, quand j'étais jeune, j'étais en cinquième, quatrième année du primaire. Donc j'avais environ, je sais pas moi, quel âge qu'ils ont ce monde-là, peut-être 7, 8 ans. Et puis dans les classes, il y avait des espèces d'enchères où est-ce qu'on avait de l'argent de classe. Je sais pas si toi t'en avais.
Non, moi j'ai jamais eu d'argent de classe, non.
OK, donc nous autres, on avait des argent de classe quand tu avais des bonnes notes, mais là, ou que tu faisais tes devoirs, on donnait de l'argent. Sauf que bon, moi, j'ai jamais été comme très, très assidu à l'école. J'ai tout le temps eu des bonnes notes, mais j'ai jamais rien fait à cause que j'aime pas les devoirs. J'aime pas ça quand il y a quelqu'un d'autre qui me dit quoi faire. C'est pour ça que je me suis parti de business.
Ouais, je pense qu'il y a un thème récurrent.
c'est pas la prof qui va me dire quoi faire de mes soirées, all right? Fait que c'est ça, j'étais vraiment pas bon au niveau de l'argent de classe. Sauf que moi, j'aime ça les enchères, parce que j'aime ça bider, puis... t'sais, renchérir, ce genre de choses-là, je trouvais que c'était vraiment le fun, sauf que j'avais jamais d'argent pour jouer avec les autres. Donc, ce que j'ai fait, c'est que le midi, puis pendant les pauses, j'apportais du stock que je volais à ma mère chez nous, puis je les vendais aux autres contre de la fausse argent scolaire. Fait que là, rapidement, t'sais, c'est sûr que tout l'argent s'est mis à converger vers moi à cause que j'étais le seul qui offrait un service. Et puis, dans les enchères, j'étais le seul qui avait de l'argent. Fait que je pouvais tout acheter vraiment pas cher. Puis là, je revendais au monde après ça dans les cours de récré. Fait qu'ils disaient « Ah, ben là, j'ai pas pu l'acheter à l'enchère, mais c'est pas grave, Olivier va me le revendre. » Fait qu'au début, c'était avec comme de la fausse argent. Des fois, il y en avait qui me payaient avec la vraie, mais ça, fallait pas le dire. Et puis, bon, éventuellement, il y a eu la compétition qui s'est faite. Il y a quelqu'un, un autre gars qui s'appelle Bastien, qui est un de mes amis à Star, qui s'est ouvert une business. Et puis là, il a essayé de me forcer à abandonner mes parts de marché. Sinon, il allait me stouler au directeur. Et puis, j'ai dit non. Fuck you. Imagine deux petits gars de 7 ans genre, qui jouent au Monopoly ensemble quasiment. Et puis là, ils s'en vont balader. Éventuellement, le directeur m'a rencontré dans son bureau. Il m'a dit, c'est pas bien, t'as pas le droit de faire ça, faut que t'arrêtes. Et je me suis fait confisquer tout mon argent scolaire que j'avais. Et puis, ma business a crashé là, pour la première fois lorsque j'avais 7 ans. C'est la loi de la jungle, l'entreprise. Ouais.
Ça me rappelle quelque chose. Moi, nous c'était pas, on n'avait pas d'argent scolaire. En revanche, on avait des cartes Pokémon qui avaient monté un système de troc hallucinant où on avait une économie entière montée sur des cartes Pokémon. Et si tu avais des cartes brillantes, tu étais le king of the world. Tu pouvais acheter n'importe quoi.
Ah oui, oui, oui.
Je voudrais transitionner un petit peu sur un sujet que tu as mentionné tout à l'heure, qui est la pub Facebook. Tu as une formation sur la pub Facebook. J'ai vu que tu avais beaucoup écrit dessus.
Ouais.
Comment est-ce que tu l'utilises, toi, dans ton business personnel?
OK, bon, mais d'abord, dans mon entreprise, moi, j'utilise beaucoup de publicité Facebook pour aller chercher, faire grossir ma liste de courriels, en fait. J'ai un lead magnet, donc un e-book que je donne aux gens, qui est comme le standard de l'industrie, quoi. Il faut que tu donnes quelque chose aux gens, mais pas des gens donnent un e-book. Donc, j'ai fait un court e-book d'une trentaine de pages. Ce qui est important de dire, c'est que, bon... dans ton e-book, dans ce que tu donnes aux gens, moi, je crois que c'est important de donner une valeur qui est très, très haute, dans le sens que c'est pas juste un document Word wrappé dans un PDF. C'est un document que j'ai pris la peine d'engager un éditeur, que j'ai pris la peine d'engager un designer pour faire un beau document avec InDesign. Le design est écœurant. C'est un bon investissement, c'est une belle valeur que, bon, facilement, les gens payent pour ça. Moi, j'ai une page comme Road où je laisse les gens décider de la valeur de l'achat, puis la plupart des gens me donnent 15$ pour. Et puis, personne qui se plaint, même que j'ai des très, très bons commentaires de tout le monde qui le prennent payant, autant que des gens qui le prennent pas payant. Donc, j'ai un guide e-book que j'utilise à publicité Facebook pour en faire la promotion. Une fois que les gens achètent ou téléchargent ce e-book-là, ils rentrent dans une série de courriels où je leur donne du contenu en lien avec la publicité Facebook et éventuellement, je leur propose d'acheter ma formation pour avoir un meilleur coaching puis un meilleur suivi pour leur publicité. Donc ça, c'est une des façons que je le fais, acquisition de lead. Ensuite de ça, je fais de l'acquisition de mentions j'aime régulière. Là, je fais du remarketing sur les gens qui visitent mon site. Je les cible sur Facebook avec la publicité pour faire un petit peu augmenter mon nombre de ma communauté sur Facebook. Et aussi, je fais un petit peu de promotion de mes articles sur Facebook. Donc, je mets un petit budget de peut-être 3-4$ par jour pour faire connaître mes articles à une nouvelle audience qui ne me connaissent pas, peut-être pas nécessairement.
OK. Sur la question de la promotion des articles, j'ai vu une étude de cas que tu avais fait qui était assez drôle, que tu avais appelé le marketing de la chance, dans laquelle tu expliquais comment est-ce que tu avais généré 35 000 pages vues pour 33€. Essentiellement, l'idée, c'était ça, c'était de mettre un petit budget quotidien pour promouvoir du contenu. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé et comment est-ce que tu es arrivé à générer 35 000 pages vues avec 33€ de budget?
Ce qui se passe, c'est que dans n'importe quel réseau, il va toujours avoir ce qu'on appelle des super connecteurs, c'est-à-dire des gens comme toi, que lorsque tu partages un article, là, tu vas avoir beaucoup plus de visibilité que si ma tante, qui vient juste de s'inscrire sur Facebook, puis qui a 50 amis, ma tante n'est pas sur Facebook, fait que j'espère qu'elle n'écoutera pas le podcast. Bref. Donc, toi, tu vas avoir une portée beaucoup plus grande que quelqu'un qui vient de s'inscrire sur Facebook ou qui n'a pas beaucoup d'amis ou que bon, etc. Au même titre, que cette personne-là, elle vient de commencer, elle n'a pas une grosse audience, elle avait une page Facebook avec juste 100 mentions j'aime, elle n'a pas de liste courriel, elle n'a pas 1000 ou 5000 amis dans son cercle Facebook et c'est pas tous des gens qui sont intéressés au tatou. Donc la seule option pour cette personne-là d'aller chercher de la visibilité, c'est de tenter de cibler ces influenceurs-là qui ont beaucoup de notoriété sur les médias sociaux. Alors, ça, on peut pas nécessairement le faire directement parce qu'il n'y a pas une option sur Facebook que c'est cibler uniquement les gens qui ont 500 000 mentions j'aime sur leur page. Sauf que tu le fais en créant du contenu qui est très, très intéressant, puis en faisant la promotion dans la vicinité de ces gens-là, dans leur entourage, dans les gens qu'ils connaissent, dans les gens qui ont un intérêt commun. Et à un moment donné, ça va venir à leurs oreilles. Et à un moment donné, ils vont finir par tomber sur ton site web et ils vont finir par, s'ils aiment le contenu, le partager sur leurs réseaux sociaux. Et puis là, tu vas tu vas profiter un peu de la notoriété de cette personne-là sans même connaître cette personne-là, sans lui avoir contacté personnellement. Il va avoir partagé ton contenu. Et puis, s'il aime bien ce que tu fais, peut-être que ça va être quelque chose qui est récurrent. Donc, dans son cas, ça a eu un impact significatif. C'est un blog qui avait absolument aucune visite, quelque chose comme 1000 visites par mois. Et puis, du jour au lendemain, bang, 30 000 visites sur son site en deux spikes. Donc, un premier spike où il y a eu un partage à 6 000, l'autre à 8 000. Et puis, ça a eu un impact permanent sur son trafic. Et quand tu as autant de trafic que ça, il y a des backlinks qui se font. Et puis, il y a beaucoup de partages sur les médias sociaux. Ça crée des sites référents qui t'apportent du trafic. Et maintenant, il est rendu à 10 000 environ par mois à cause juste de ce spike-là qui est resté un petit peu ensuite par la suite.
Ah, tu veux dire qu'il a, gardé 10 000 visiteurs par mois juste de ce coup-là, de ce coup viral?
Oui, c'est ça. Parce que il y a des gens, il y a d'autres blogs qui en ont parlé et puis ça a augmenté son trafic organique. C'est ça qui est drôle, c'est que c'est du organique qui reste par la suite à cause que t'as comme monté en crédibilité dans les yeux de Google, si on veut.
Ça, c'est une utilisation assez intéressante de la publicité. C'est-à-dire que souvent, les gens ont l'impression que pour faire de la publicité, on a besoin de payer très cher son clic. Alors que parfois, tu peux en fait, en particulier sur ces réseaux-là, enclencher une boucle virale où en fait, pour un budget assez minime, tu vas permettre à ton contenu ou à ta pub ou à ton offre de tourner sur vachement plus de monde qu'en fait que les gens sur lesquels tu as payé. Et j'ai déjà vu pas mal de cas où on a réussi à faire ça, où tu donnes un petit push et tout d'un coup ça décolle.
Est-ce que je peux être geek un peu? Est-ce que je peux vraiment?
Oh, vas-y.
Ok, good.
Vas-y.
Ouais. Parce qu'en fait, j'aimerais ça parler de l'algorithme de Facebook.
Allons-y.
L'algorithme de Facebook, c'est un algorithme d'enchère. En fait, c'est le système d'enchère qui est intéressant. Donc, ce qui se base sur un enchère qui s'appelle V. Craig Clark Grove. Ce système d'enchère-là est super idéaliste à cause que ce qu'il dit, c'est que. Mettons que tu prends une enchère, on va prendre un exemple concret, qu'il y a une photo de chat qui est censée apparaître sur ton fil d'actualité. Parce que c'est la publication qui est la moins pertinente de tes 150 que Facebook te donne le choix d'avoir. Ce qu'il va faire, c'est qu'à place de te montrer la photo de chat qui est la moins pertinente pour toi, il va la remplacer par une publicité. Et puis, le prix que tu payes pour avoir cet emplacement publicitaire-là, c'est pas le prix qui est en compétition avec tout le monde, comme, mettons, une enchère sur eBay ou comme un petit peu qu'est-ce qui se passe sur AdWords. Le prix que tu payes, ça va être la quantité de valeur symbolique qui est déplacée en montrant ton annonce à la place de la photo de chat. Fait que plus que ton annonce a de la valeur symbolique, alors moins que tu payes cher à cause que moins que tu déplaces de valeur. Fait que mettons que, je sais pas moi, une photo de chat dans une échelle sur 10, je sais pas, ça donnait 8 de valeur. Puis toi, tu arrives, puis que ton call to action ou ton lead ou peu importe, ça donne 7 de valeur, eh bien, tu vas juste avoir la différence entre les deux. Fait que ça va être comme 1 que tu vas payer. Alors que si tu arrives, puis tu fais un hard pitch sur ton site, puis là, ça donne 2 de valeur, maintenant, à ce moment-là, tu vas payer 6. Puis là, je suis sûr qu'il va y avoir quelqu'un qui va faire les maths en arrière de ça, qui va aller dans les commentaires, puis qui va te dire le lien en bas, c'est pas compté. À cause que j'ai dû faire une erreur. Mais, fait que c'est ça, c'est la quantité de valeur symbolique que tu déplace en mettant ta pub, c'est ça que tu payes. Fait que plus que ta pub est bonne, moins que tu payes cher. Fait que quelque chose qui a juste besoin d'une petite poussée, ça va rien coûter. Tu vas avoir un engagement de malade. Le clic, pour mon ami, pour revenir à la campagne que lui a été rare d'avoir 30 000 visites avec 30 euros, son clic sur son site web, il coûtait 2 cents. À 2 cents, là, c'est un dollar canadien. Là. Fait que ça ne vaut pas grand-chose.
Effectivement, c'est des choses qu'on voit, en particulier le coût du clic sur Facebook est super élastique. Les gens ont été éduqués par AdWords à dire « Ok, un clic sur ce mot-clé, c'est 1,27 €. Un clic sur Facebook, il va varier du 2-3 centimes et tu peux monter jusqu'à plus d'un euro sur des très très mauvaises campagnes où tu peux dépenser beaucoup d'argent pour ton clic. » Et tout ça dépend de choses subtiles. Ça dépend en particulier effectivement des signaux sociaux qui sont est-ce que les gens cliquent sur ta pub, est-ce qu'ils likent, est-ce qu'ils partagent, etc. Moi, j'ai beaucoup de campagnes, je trouve ça très drôle, où les gens taguent leur ami dans mes pubs. Donc, je fais une pub, c'est pas pour eux, mais ils disent « Ah bah tiens, c'est pour Jean-Marc. » Et donc, ils taguent Jean-Marc dans mes pubs. Donc, Jean-Marc, qui est un prospect ultra qualifié, puisque son ami m'a dit qu'il était qualifié, va voir ma pub pour gratuit. Et en plus, Facebook va se dire « Oh bah, dis donc, les gens commentent et taguent leurs amis dedans. Je devrais montrer cette pub à plus de gens parce qu'elle doit être vachement cool. » C'est tous des leviers sur lesquels on peut jouer.
Ouais, c'est ça. Il faut aussi se dire que bon, Facebook, c'est son, sont assez quand même très cool dans leur marketing. Et ils ont beaucoup d'ingénieurs intelligents qui travaillent pour ça, pour eux, en arrière de ça. Et bon, sur toi, ton site, je suppose que tu as bon, les outils de partage sur les médias sociaux, tu as peut-être les suivis de pixels de conversion sur ton site web aussi pour faire tes suivis de publicité. Bon, tout le monde a ça. Tous les sites ont la technologie de Facebook maintenant. Et lorsque tu cliques sur un lien sur Facebook, je ne sais pas si tu remarques, mais dans ta barre d'adresse, ton lien est pendant un instant changé par fb.com/ avec une longue URL. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que il encode l'URL, ils font une redirection. Fait que tu cliques pas directement sur le lien d'envers.ca, tu cliques sur Facebook qui redirige ensuite de ça vers mon site web. Donc, qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Ils viennent de loguer dans ton profil un historique de site web que tu as visité qui est caché, que tu n'as aucune connaissance que Facebook garde. Sauf qu'il garde ton historique des sites web visités. Et non seulement il garde ton historique des sites web visités, sauf que quand tu t'en vas sur mon site, Facebook ont accès à tout ce que tu fais sur mon site. Le temps par visite, le nombre de pages cliquées, est-ce que tu es resté là puis que tu es revenu tout de suite sur Facebook. Donc ça, c'est tous des indicateurs qui ne sont pas sur Facebook puis qui indiquent la qualité de l'engagement que la personne va avoir eu avec ta publicité ou avec ton article. Mais ça, le monde n'y pense pas. Ils disent « Ah, ben, j'ai eu beaucoup de likes. » Sauf que si tu n'as pas de likes, sauf que la visite, en moyenne, c'est 6 minutes sur ton site quand ils cliquent sur ta pub, ben là, Facebook va se dire « Ça, c'est un contenu qui est pertinent. » Puis dans l'algorithme, Vic Crock Growth, je vais essayer de le dire comme du monde, c'est justement la valeur symbolique que tu donnes aux gens qui est importante puis qui me prennent en compte. Fait, en tout cas, Facebook, c'est toute une machine.
Mm-hmm. Et par ailleurs, c'est des data à laquelle toi, tu as accès dans une certaine mesure dès que tu as ton pixel de remarketing. Donc d'ailleurs, on peut donner un conseil actionnable tout de suite pour les gens qui nous écoutent. Si vous n'avez pas sur votre site installé de pixel de remarketing, allez l'installer maintenant parce que c'est gratuit et ça accumule des gens dans vos audiences que vous pourrez utiliser plus tard. Et hein, le jour où vous voudrez vous mettre à la pub Facebook, vous serez content d'avoir mis cette audience et de l'avoir accumulée depuis. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir qui n'ont pas le pixel, il faut le mettre aujourd'hui. Tout d'un coup l'audience elle est à zéro, il faut la monter à partir de zéro. Si le pixel est installé, Facebook collecte des données sur vos visiteurs, c'est qui visite vos sites et quelle page ils regardent. Et si demain vous voulez aller cibler tous les visiteurs qui ont vu votre page de vente mais qui n'ont pas acheté, bah, vous pouvez aller le faire en quelques minutes et c'est très simple. Pour partir sur un sujet un petit peu différent, j'ai vu que sur ton site, tu vends la formation sur Facebook. Tu as aussi un bouton qui dit « Votez pour mon prochain cours » où tu demandes aux gens de te donner du feedback sur ton prochain cours.
Oui.
Est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que tu en es arrivé à cette idée? Qu'est-ce que ça t'apporte? Quels sont les résultats d'avoir mis en place ça? C'est vrai que tout le monde dit « Il faut écouter son client, il faut être à l'écoute de son marché ». Là, ce que je vois chez toi, c'est quelque chose de très simple, une façon très simple dont tu as implémenté ce conseil-là. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que t'en tires, si c'est efficace, si ça fonctionne? Est-ce que tu le recommanderais à d'autres gens de mettre ça en place?
Eh bien, je recommande à tout le monde de remettre un système de sondage, un système de rétroaction en place pour aller chercher qu'est-ce que les gens pensent de toi. Écoute, le premier courriel que j'envoie aux gens lorsqu'ils s'abonnent à mon infolettre, ça a longtemps été le cas, maintenant je ne le fais plus parce que j'avais trop de courriels, c'est quoi le problème que tu as présentement, que tu as besoin, avec lequel tu as besoin d'aide maintenant. C'est quelque chose que j'ai volé à Derek Halpern aux États-Unis, technique qui est super populaire, que bon, tout le monde devrait faire ça. Tout le monde devrait, premier courriel que tu envoies aux gens, demander avec quoi tu as besoin d'aide pour que je puisse t'aider. Quel article de blog tu veux que j'écrive pour toi? C'est important de demander le feedback aux gens. Donc, ça, c'est la première, comme le premier courriel de sondage que je fais, mais j'ai plein de sondages que j'ai intégrés tout au long de l'expérience de la personne avec mon site web. Avant de faire ma formation sur Facebook, j'ai fait un sondage avec toute mon audience de savoir c'est quoi tes peines, tes frustrations, tes désirs, tes besoins avec la publicité Facebook. Si j'avais une baguette magique que je pourrais donner un coup puis qu'il y aurait un problème avec la pub Facebook que je pourrais régler, comment est-ce que ça serait quoi? Alors là, les gens m'ont parlé du reach, m'ont parlé de la portée, m'ont parlé de la rentabilité, m'ont parlé de plein de choses. Et puis toutes les réponses de ce que les gens vont te donner, de ce que les gens vont dire, c'est important de prendre le vocabulaire que ces personnes-là ont pour ensuite de ça, positionner ton offre. Donc, si les gens me disent « Ah, ben moi, c'est le reach qui est important », puis qu'ils ils disent pas « porter », ils disent « reach », mais prends le mot « reach », parce que c'est ça qu'ils comprennent comme mot. Ensuite de ça, bon, fait que je fais un sondage pour ma formation sur la publicité Facebook. Je finis mon pitch de vente. Je fais un autre sondage pour leur demander « OK, c'est une série de ventes, là, manifestement. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous a dérangé? Y a-t-il des choses? Est-ce que vous avez quand même retiré quelque chose de cette série de ventes-là? » À cause que moi, ce que je veux, c'est que bon, tu fais ma série de ventes, je t'écœurerai avec quelque chose comme 10 courriels, mais je veux que tu aies quand même retiré quelque chose à chacun de ces courriels-là. Je veux que tu aies appris quelque chose. Donc là, il y a des gens qui m'ont dit, ah ben tes titres étaient trop agressifs sur tout celui-là, il m'a déplu un peu. Ou, ah mais je trouvais que c'était trop compressé dans le temps, je trouvais que c'était trop fréquent. Alors, c'est toutes des choses qui m'ont permis d'améliorer mon entonnoir de vente, parce que là, je m'en vais chercher leur feedback. Ensuite de ça, j'ai un autre sondage, parce que là, je parle du email marketing. Là, je dis, c'est quoi que vous aimeriez savoir? Même principe que sur la publicité Facebook. C'est quoi vos désirs, vos frustrations avec le email marketing? Et puis, c'est important d'intégrer les sondages à l'intérieur de votre boucle. Fait que c'est pour ça, sur ma page, j'ai une liste d'attente. Sur la liste d'attente, je pose des questions sur qu'est-ce qu'ils veulent savoir. Sur ma page de formation, je demande aux gens c'est quoi les formations qu'ils veulent avoir. Dans ma formation, j'ai un groupe Facebook de tout le monde qui suivent la formation. Moi, c'est une formation que j'ajoute du contenu bon, quasiment toutes les semaines. Et puis, c'est des sondages dans le groupe Facebook où ce que je demande aux gens, bon, ben, cette semaine, sur quoi est-ce que vous voulez que je fasse mon prochain cours dans ma prochaine leçon dans le cours en ligne. Donc, c'est les gens qui décident de tout. Et ça va même jusqu'à mon désabonnement. Quand tu désabonnes de ma liste de courriel, j'ai un Snoopy super triste qui dit « Pourquoi est-ce que vous êtes parti? » Et puis là, il y a un autre sondage. Et puis, c'est quelque chose qu'il faut intégrer du début jusqu'à la fin pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que les gens font qu'est-ce qu'ils font puis c'est quoi leur motivation. Quand tu joues dans les nombres où tu as 10 000, 50 000, 100 000 abonnés, visiteurs ou gens qui te suivent, tu peux pas avoir un échange un à un avec tout ce monde-là, sauf que c'est important d'aller chercher du feedback qualitatif, en sens que tu lui laisses répondre qu'est-ce qu'ils veulent, et ensuite de ça, tu décodes les messages, tu t'en vas chercher les tendances régulières. Fait que moi, j'ai un document avec tous les désirs et les besoins et frustrations sur Facebook, sur l'email marketing, sur ma liste de courriels sur mon site web, et puis j'essaie de comprendre mon lecteur. J'essaie de mieux le comprendre que ce que lui-même se comprend, parce que tout le monde apporte une perspective différente sur un problème. Moi, j'essaie de prendre toutes ces perspectives-là puis de les rapporter ensemble puis d'offrir un espèce de tout concret que la personne la regarde puis elle fait comme « Ah, c'est ça que j'ai besoin. » Parce que tu as fait une bonne étude de marché avec tes sondages.
Sur la question du sondage, j'ai une histoire aussi qui se rapproche de ce que tu racontes sur la question de réutiliser le langage. Il n'y a pas si longtemps, j'étais en train de développer disons les documents marketing de base pour une formation qu'on était en train de lancer sur un de mes autres business et j'arrivais pas à formuler ma proposition de valeur, j'arrivais pas à trouver un titre, j'avais une idée vague de ce que devait être la formation mais je n'arrivais pas à la mettre en mots. Évidemment, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait été sortir un sondage, donc là on est sur des sondages où on devait avoir 250-300 réponses, donc il y avait quand même un peu de volume, c'était un gros sondage, une grosse spreadsheet avec beaucoup de points de données et puis je lisais le sondage, on a tout un process d'analyse où on va taguer les réponses, on va classer les choses, etc. J'essayais d'y voir un peu plus clair sur les problèmes. Et puis je tombe sur la réponse d'un gars et qui avait une réponse de 2 lignes qui exprimait exactement ce dont j'avais besoin. Et donc j'ai copié-collé la formulation qu'il avait utilisée, qui était une formulation assez presque imagée. J'ai copié-collé sa formulation et c'était ça ma proposition de valeur. Pourquoi ? Parce que la proposition de valeur qui est sortie de la bouche de mon client sera toujours plus efficace que celle qui est sortie de mon cerveau où j'ai réfléchi et trouvé les mots parfaits, etc. Pour le coup, c'est un mec. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu essayes d'accomplir dans ta vie avec cette formation ?» Il a une réponse honnête qui venait du cœur, qui venait voilà, des émotions. Et c'était une meilleure formulation que moi, tout ce que j'avais pu trouver en réfléchissant, en essayant d'être malin, en essayant de trouver trouver un titre et d'essayer d'être plus malin que mon lecteur. Et ça renforce la puissance voilà, d'avoir le langage devant toi, d'avoir les mots exacts qu'ils utilisent, de comprendre tout ça.
Là, il faut que tu nous dises c'est quoi. Là, tu peux pas juste nous laisser comme ça en haleine de savoir c'est quoi ton headline.
Ok, donc je me souviens plus de la proposition de valeur exacte. Je suis pas censé en parler parce que c'est pas encore sorti, mais bon, je vais te le dire parce que voilà, au final, on s'en fout, c'est moi le chef. Donc en gros, je cherche à faire une formation sur les dynamiques sociales. Comment est-ce que tu peux plus facilement te faire des amis? Comment est-ce que tu peux rentrer dans un groupe, comprendre les dynamiques, te faire inviter à des événements, etc. C'est pour les gens qui sont un petit peu timides, qui ont un peu besoin voilà, de mettre de l'huile dans les rouages, tu vois, c'est un peu compliqué, etc. Et donc, je ne savais pas vraiment, comment est-ce que tu expliques cette idée? J'avais que des trucs un peu mous du genou, j'avais dynamique sociale, genre... Faites-vous des amis, tu vois, des trucs. C'était un peu cucu, c'était pas très intéressant, etc. Et donc, t'as ce gars-là, et je lui dis, bah, qu'est-ce que t'essaies de tirer de cette formation? Et sa réponse, c'était très simple, c'était, j'ai envie de devenir un aimant social.
Ah.
Je me dis, ah, tiens, tu vois, c'est une réponse toute simple. Et donc, du coup, maintenant, voilà, on est en train de sortir cette formation qui s'appelle aimant social. Après, il y a une tagline qui a été récupérée, qui a été amalgamée d'autres choses, qui est plus précise. Mais ce titre-là a été copié-collé directement de la réponse du
J'adore.
J'espère que personne va me le voler maintenant parce qu'on n'a toujours pas sorti cette formation. Mais vous l'avez entendu ici pour la première fois, exclusif. Pour te transitionner, Olivier, sur la question suivante, à l'instant, tu as mentionné que sur ta page d'inscription, tu utilisais un Snoopy qui était triste, donc c'est une petite note d'humour. J'ai remarqué quelque chose d'autre sur ton site, c'est que quand tu lis un article, il y a une petite icône qui dit « cet article a pris 5 cafés à faire ». Et quand on clique sur la petite icône, on arrive sur une page qui dit « mes articles sont conçus et demandent beaucoup de café, je bois beaucoup de café », et tu as un système de donation où les gens peuvent essentiellement te donner, t'acheter un café.
Ouais.
Et j'ai trouvé, moi je vais mettre le lien dans la page de cet épisode et je vais inviter les gens à aller voir cette page puisque moi j'ai trouvé ça fascinant. C'est-à-dire que le petit bouton PayPal de donation, il existe depuis 1995. Tout le monde l'a fait. Mais toi, tu as derrière mis un narratif où tu me dis « Bah écoute, tu peux soit m'acheter un café filtre et ça coûte 1,25. Tu peux m'acheter un cappuccino, ça coûte 3,25. Tu peux m'acheter un café brésilien, ça coûte 5,50. Tu peux m'acheter un scotch, ça coûte 8 $. Et tu peux m'acheter une bouteille de scotch et ça coûte 65 $. » Et ça, j'ai trouvé ça complètement fascinant parce que, en grosso modo, tu reframes quelque chose qui est un petit peu, ok, tu me demandes de l'argent, c'est quoi, pourquoi, etc. Tu le reframes dans un sens où c'est de la réciprocité, donc c'est du Cialdini pour ceux qui ont lu le bouquin Influence, c'est-à-dire, c'est pas de la mendicité, c'est ok, je te donne des super articles et en échange, bah, tu payes les cafés que je consomme pendant que je bois les articles. Pendant que j'écris les articles. Et je mettrai un lien vers ta page dans le podcast parce que j'ai trouvé ça vraiment un petit détail qui moi, j'ai trouvé ça génial. Voilà, un petit détail marketing, c'est là où tu vois l'attention dans les petites choses, dans le copywriting, la façon dont c'est expliqué, ça m'a mis le sourire. Alors que d'habitude, voilà, quelqu'un me demande une donation, je suis genre... pourquoi quoi? Et voilà, t'as pas une meilleure façon de gagner de l'argent. Et là, donc, je me dis, ah bah, tiens, c'est drôle. Et par ailleurs, petite astuce aussi qui est intéressant, c'est que ton système ne fonctionne pas en one shot. C'est-à-dire que c'est, si je me trompe pas, un abonnement. Donc, si je t'achète un café, je t'achète un café tous les mois. Et ça, effectivement, c'est une petite astuce, mais qui est largement supérieure à un one shot, à une tip jar sur PayPal. Voilà. En fait, j'ai pas de questions. Je me suis aperçu que c'était juste, je voulais juste te jeter des fleurs parce que j'ai raconté toute l'affaire. Est-ce que tu as une idée de comment ça t'est venu ou est-ce que c'était juste venu comme ça?
Oui, en fait, j'ai une anecdote à compter là-dessus parce que idéalement, bon, c'est ça. Moi, quand j'ai quitté mon emploi, je savais pas dans quelle direction me garocher en premier pour qu'est-ce qui est de la monétisation de ton site web. C'est une question que tout le monde fasse quand on a un site qui commence à avoir de l'ampleur. Puis on se dit, comment est-ce que je vais faire pour vivre de tout ça? Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est comme que je parlais tantôt des sondages, j'ai fait un sondage sur toute ma liste, à savoir, est-ce que vous seriez prêt à payer pour avoir du contenu exclusif sur mon site? Fait que là, j'ai eu des questions, des commentaires qui étaient comme un petit peu. C'était all over the place. J'avais des gens qui me disaient sur le web, c'est gratuit. Oui, tes articles sont bons, sauf que ça vaut pas la peine de payer. J'en avais d'autres qui me disent sérieusement, je m'en fous d'avoir du contenu exclusif. Je trouve que c'est tellement bien qu'est-ce que tu fais que j'ai juste envie de te donner de l'argent sans rien. Fait que là, je dis, all right. Il y a les deux extrêmes. Il y a du monde qui disent non, je paierai jamais pour du contenu. Il y a d'autres monde qui disent ce que tu fais, c'est bien. Fait que là, je me demandais si j'allais faire une section de contenu exclusive en forme de blog pour des gens. Et puis finalement, j'en suis venu à la conclusion que non, ça ne vaudrait pas la peine. Sauf que, à un moment donné, c'est ça, il y a du monde qui me disait dans les commentaires, dans les courriels que je recevais, ça tournait autour de « je vais pas payer pour avoir accès à tes articles, sauf que si tu veux que je te paye une bière, si tu veux que je te paye un café, ça me fait plaisir. » Là, c'est là que l'idée a commencé à germer. Voilà.
Et psychologiquement, c'est différent, n'est-ce pas, de te donner de l'argent ou de te payer une bière ou un café? C'est très différent. Il y a un côté où c'est plus une transaction financière, c'est je me rapproche de Olivier, je lui offre quelque chose.
Exactement. Et puis aussi, moi, ce que j'aime pas, c'est tout l'aspect de quémander, de quêter. Parce que, tu sais, quand tu demandes des donations aux gens pour être capable de faire vivre ton blog, ben, c'est grosso modo leur dire, écoute, moi, j'ai besoin de ton argent, j'ai besoin de toi, c'est ton cash que je veux. Puis ça, j'aime vraiment pas ça. Alors qu'un café, ça dit, bon, ben écoute, je vais vivre pareil. Sauf que si tu me payes un café, je vais juste faire plus d'articles. Mais je vais être quand même très bien. Fait que c'est pas la même dynamique de j'ai besoin de toi. C'est juste, si tu veux me donner un coup de pouce, je vais l'apprécier. Et puis, à partir de là, j'ai eu quand même des réactions assez intéressantes. J'ai eu des gens, Café Barista à Montréal, c'est une agence de communication qui vend du café. Je trouve ça assez spécial. Mais ils sont très, très cool comme gang. Et puis, ils m'ont envoyé deux gros sacs de café par la poste. Et puis, c'est ça, fait que je bois leur café depuis ce temps-là. Très, très bon café, d'ailleurs. C'est du café bio-organique, toute la kit. Et puis, c'est ça, j'ai eu d'autres personnes qui m'ont demandé mon adresse. Je leur donne mon adresse. Puis, des fois, je reçois des sacs de café par la
C'est incroyable. Écoute, je vais rester sur cette bonne note. Je vais partir sur mes trois dernières questions de cette interview. La première question, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent?
Oui, malheureusement, c'est un livre qui n'est pas traduit en français, mais je pense que la meilleure place pour démarrer lorsque vous voulez améliorer votre condition de vie, que ce soit d'avoir de l'avancement dans votre emploi, que ce soit de partir votre business ou que ce soit de se partir un blog puis d'essayer de devenir un influenceur, c'est un livre qui s'appelle « Education of Millionaires ». C'est un livre qui est excessivement complet parce qu'il touche au marketing, il touche à la vente, il touche au networking.
Est-ce que tu peux me rappeler l'auteur de ce bouquin?
Bonne question. Je vais faire un...
Ok, je suis désolé de t'avoir interrompu. Je vais le chercher moi-même et je le citerai. Tu peux continuer ton explication, je suis désolé.
Ok, mais fait que c'est ça. C'est un livre qui est excessivement complet au niveau que ça va toucher un petit peu à tout. Et puis comme ça, après ça, c'est une bonne base pour ensuite lire d'autres livres qui vont parler plus de la vente ou qui vont parler plus du marketing, qui vont parler plus du développement de produits ou peu importe tout ce que tu veux apporter ton entreprise ou tes connaissances. Mais c'est une bonne base.
Ouais, je l'ai lu aussi et c'est une excellente... Et donc, l'auteur, c'est Michael Ellsberg. Donc, E-L-L-E-S-B-R-G. Je recommande aussi beaucoup ce bouquin qui couvre plein de sujets, mais est assez innovant dans son approche, j'ai trouvé. Et moi, par exemple, c'est un bouquin qui vraiment t'explique l'importance du copywriting. Quoi que tu fasses, tu as besoin de savoir vendre par les mots. Et moi, je trouvais ça génial la façon dont il abordait ce sujet.
Ensuite de ça, Lean Startup. Je ne sais pas c'est quoi la traduction française. Je sais que le livre est traduit, mais l'édition de Eric Ries en 2008, je crois. The Lean Startup, meilleur livre que vous pouvez lire pour tout entrepreneur. Même si vous n'êtes pas un entrepreneur, allez lire Lean Startup. Ça va changer votre façon de faire les choses. C'est pas pour rien que moi, j'ai des sondages qui sont partout dans mon cycle de blog ou liste de courriels, produits, etc. À cause que l'idée du Lean Startup, c'est tu fais quelque chose, tu vas aller chercher de la rétroaction, ensuite de ça, tu tweaks, puis t'améliores, puis tu vas chercher de la rétroaction tout le temps. Ça a changé ma façon de voir les choses et c'est ce qui a teinté là, mon passage chez Voyage Arabien dans toutes les autres entreprises. L'idée Lean en arrière de ce que je fais, super important. Et puis, tous les livres de Malcolm Gladwell, auteur incroyable.
J'ai remarqué que tu avais repris son idée des connecteurs.
Ouais, mais en fait, c'est pas son idée. Là. Lui, il a repris l'idée d'un scientifique. Il envoyait des lettres papier. Ça partait du nord des États-Unis ou du sud des États-Unis, pardon. Il fallait que ça se rende à une personne au nord. Et puis, il fallait qu'il reposte à une autre personne. Ou ce que là, tu te disais, ah, je pense que cette personne-là va savoir qui. Et puis, bon, ça comptait le nombre de bons, là, comme les 6 degrés de séparation entre deux individus. Et puis, il y avait tout le temps la même maudite personne dans toutes les lettres qu'ils ont envoyées, à cause que ça se retrouvait tout le temps dans les mains de la même personne avant d'y envoyer. Fait que c'est là que l'idée des super connecteurs est née. Ouais. Aussi, sinon, qu'est-ce que je pourrais recommander rapidement? Livre de vente, Spin Selling, écœurant.
Spin Selling, ouais. Celui-ci, qu'est-ce que t'en as retiré concrètement? En étant très rapide, je mettrai le lien pour que les gens puissent aller le retrouver. Mais toi, sur un plan très personnel.
Eh bien, Spin Selling, ce qui est intéressant, c'est que t'essaies pas de vendre quelque chose comme au début. C'est pas comme la première étape. La première étape, c'est d'aller parler avec la personne et puis de savoir c'est quoi le problème que cette personne-là veut régler. Donc, mettons que je te vends une imprimante, puis là, bon, ton problème, c'est que ton imprimante, elle marche pas. Fait que là, OK, t'as identifié le problème de la personne, sauf qu'après ça, l'idée, c'est de développer les désavantages de ne pas régler le problème. Fait que tu dis à la personne, mais mettons que tu règles pas ton imprimante, qu'est-ce que ça va causer comme problème? Fait que là, la personne va dire, ah, il va avoir des retards, blablabla, ça va causer tel truc. Puis là, tu dis, OK. Puis Après ça, tu développes les avantages de la solution. Tu dis, OK, mais mettons que je te règle ça d'un coup de baguette magique. Ça va être quoi les avantages que ça va avoir dans ta vie? Fait que là, tu développes avec les personnes les bénéfices perçus. Fait que tu développes d'un côté les conséquences, puis d'un autre côté le bénéfice. Et ensuite de ça, mais tu arrives avec une proposition pour vendre ton produit qui est basée sur la valeur que tu as apportée à la personne. Puis ça, c'est une approche qui est beaucoup plus humaine à la vente que juste traiter la personne comme si c'était un sur mille, puis que tu fais le même pitch à tout le monde.
Ma question suivante, c'est une question qui généralement fonctionne mieux avec les gens qui ont plus de 30 ans, mais je vais quand même te la poser. Si tu pouvais revenir dans le temps et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais?
OK, si je pourrais revenir 4 ans en arrière pour me dire à moi-même un conseil, eh bien, je lui dirais, faites-en pas, man. Parce que à 24 ans, tu vas avoir une machine à voyager dans le temps.
OK. dernière question pour toi, Olivier. Est-ce qu'il y a une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit?
Oh boy. Fuck it, just ship it. Just ship it.
OK, ça marche. Sur ce, dis-nous juste où est-ce que les éditeurs peuvent aller pour en apprendre plus sur ton travail, pour te retrouver, pour te suivre.
Oui, donc tout le monde peut me rejoindre sur Google, Olivier Lambert. Vous allez tomber olivierlambert.ca sur mon site. À partir de là, abonnez-vous à mon infolettre. Premier courriel que je vous envoie, je vous donne mon Instagram, mon Facebook, mon Twitter, mon YouTube, mon LinkedIn, etc. S'il y a une place qui n'existe pas, je suis là. Pareil, je suis partout. Donc, olivierlambert.ca, meilleure place pour me trouver.
T'as un Pinterest?
Oui, j'ai un Pinterest. Pas très...
Pinterest,
c'est intéressant. J'ai un board Pinterest de pub. Parce que chaque fois que je vois une bonne pub, je le mets sur mon board Pinterest. Il n'y a pas beaucoup de gens qui me suivent sur Pinterest, mais moi, quand j'ai besoin d'inspiration, je m'en vais là-dessus.
Ah.
C'est un petit peu comme les filles, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des souliers, mettent des chandails. Moi, je mets des pubs.
Bon, Olivier, je te remercie d'avoir été avec moi. Ça m'a fait super plaisir. À bientôt.
Merci, salut. Là.
Et on en arrive donc à la fin de cette interview. J'espère que vous avez apprécié cette discussion avec Olivier. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup appris. Un des sujets sur lequel on s'est pas mal attardé, parce que je pense qu'on est tous les deux experts dessus avec Olivier, ça a été le sujet de la pub Facebook. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, si c'est quelque chose que vous avez envie de creuser un peu plus loin, mon conseil, quand vous commencez dans la pub Facebook, c'est de commencer par aller faire du retargeting. C'est-à-dire, aller recibler les gens qui sont déjà passés sur votre site. Pourquoi? Tout simplement parce que le fait de recibler ces gens-là, d'abord, cela vous montre que ces gens sont intéressés par ce que vous proposez. Et deuxièmement, vous pourrez les cibler de façon très bon marché sur Facebook. Si ça vous intéresse de rentrer dans la pub Facebook, je vous conseille donc d'aller sur marketingmania.fr et d'aller découvrir le guide que j'ai écrit et qui s'appelle « Le guide maniaque du remarketing Facebook ». Dans ce guide, vous allez apprendre de A à Z comment installer vos campagnes, comment mettre en place le suivi des conversions, pour savoir exactement combien de chiffres d'affaires est-ce que vous générez, combien de retours sur investissement est-ce que vous générez. Vous allez pouvoir télécharger ma checklist, c'est celle qu'on utilise en interne chez Marketing Mania pour optimiser les campagnes Facebook qu'on gère soit pour nous, soit pour nos clients. Tout ça se trouve dans le guide du remarketing Facebook, c'est gratuit. Pour y accéder, vous n'avez qu'à vous rendre sur marketingmania.fr et vous verrez dès la page d'accueil un bouton qui vous proposera de découvrir le guide maniaque du remarketing Facebook. Sur ce, je vous souhaite à la prochaine fois pour un nouvel épisode du podcast Marketing Mania.